Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Droit et citoyenneté se penche aujourd'hui sur la législation congolaise face à l'inhumation des masses. Pourquoi enterrer de nombreux corps dans une fosse commune alors que chaque mort peut avoir un cercueil et une sépulture digne? Que dit la loi en matière d'inhumation des nombreux morts? Nous partons de ce qui est arrivé au Sud Kiv à l'inhumation en masse des victimes de la catastrophe naturelle des inondations de Calais dans une fosse commune sans sépulture digne.
Qu'en est-il de l'inhumation des indigents ou des morts abandonnés sans famille? Y a-t-il une ligne de conduite à suivre dans notre pays pour enterrer de masse? Où doit-on? Au cimetière? Dans une concession privée? Dans une cathédrale? Quels documents légaux faut-il avoir pour enterrer quelqu'un ou de masse? Quel est le soubassement juridique ou légal de l'enterrement des religieux dans les cathédrales, concessions, couvents ou congrégations, voire dans leurs propres parcelles? Voilà la problématique qu'aborde le magazine de promotion de vos droits et devoirs, coordonné par Jeff Ngoy et co-présenté par Vanessa Kongolo, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente écoute à tous. La législation congolaise face à l'inhumation de masse, nous en parlons dans le magazine des promotions de vos droits et devoirs et nous recevons Maître Edmond Bokolo Elima, avocat au barreau de Mbandaka. Suivez.
Nombreuses personnes se questionnent jour et nuit autour de cette pratique qu'est l'idomicide dans ces pays, qui consiste bien évidemment à enterrer des personnes dans une fosse commune, comme est le cas le plus récent de l'inhumation en masse des victimes de la catastrophe naturelle, des inondations de Calais, dans une fosse commune, sans sépulture digne. Alors la question que nous devons répondre ici est celle de savoir, est-ce que la législation congolaise prévoit l'enterrement de nombreux corps dans une fosse commune? À cette question, nous pouvons répondre comme suit. L'état actuel de la législation congolaise sur le funérail et les sépultures est d'abord obsolète, étant donné que les textes juridiques qui existent dans cette matière, dont notamment l'ordonnance du 4 septembre 1909 sur le cimetière indigène, l'ordonnance numéro 11-104 du 15 mars 1950, relative au service des inhumations et police des cimetières, l'arrêté du gouverneur général du 16 mai 1907 sur les concessions de sépulture, l'ordonnance du 14 février 1914 liée au service des inhumations et police des cimetières sont des textes juridiques hérités depuis l'époque coloniale et non revus jusqu'à ces jours. Alors, cette législation qualifié par plusieurs juristes de la branche orpheline du droit congolais et selon l'esprit du colonisateur, ne prévoit pas l'enterrement ou l'inhumation de nombreux corps dans une fosse commune. En effet, l'article 5 de l'ordonnance du 4 septembre 1909 prévoit que chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse aura une profondeur de 1 mètre 5 décimètres sur 8 décimètres de largeur et 2 mètres de longueur. Les fosses seront distantes entre elles d'au moins 1 mètre sur tous les côtés. Aussi, l'ordonnance du 14 février 1914 relative au service des inhumations et police des cimetières, spécialement en ses articles pertinents 4 et 5, prévoit que chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée. les fosses sont distantes entre elles d'au moins 30 cm sur tous les deux côtés. Pour ainsi dire que les deux textes juridiques, notamment l'ordonnance du 4 septembre 1909 et l'ordonnance du 14 février 1914, les deux ordonnances, voulais-je dire, reconnaissent que l'inhumation pour chaque corps doit avoir lieu dans une fosse séparée. Donc le deux textes juridiques qui parlent sur l'inhumation ne fait nullement allusion à l'inhumation, à l'enterrement des personnes à masse. Et ce sont les textes que nous avions hérités comme du plus haut, ce sont les textes que nous avions hérités du colonisateur belge. Alors, que pouvons-nous dire encore sur ce que veut la loi en matière d'inhumation des nombreux morts? Selon l'esprit du législateur, chaque mort doit être enterré dignement, dans un cercueil et dans une sépulture digne. La pratique des fosses communes est une émanation de l'autorité administrative congolaise et non du législateur, parce que comme nous l'avions vu, nous l'avions évoqué, nous l'avions fustigé, que la législation congolaise dans cette matière est orpheline et obsolète, parce que ce sont des anciens textes juridiques qui ont été promulgués, qui ont été signés, qui ont été rendus publics à l'époque colonial. Car jusqu'à ce jour, les textes juridiques évoqués précédemment ne prévoient pas une inhumation en masse. La loi autorise plutôt la déclaration des décès par un jugement collectif du tribunal de grande instance dans le cas où le décès est dû à un événement tel qu'un naufrage, une catastrophe aérienne, un tremblement de terre, un glissement de terre ou une érosion qui emporte plusieurs personnes, par le fait duquel il y a lieu de croire que plusieurs personnes ont péri, conformément à l'article 144 du Code de la famille. C'est-à-dire que sur l'enterrement de plusieurs personnes dans une même fosse commune, la loi ne le prévoit pas. Mais la loi prévoit que lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, que les personnes soient déclarées au niveau de la justice, c'est-à-dire que pour faire les déclarations de décès, on peut faire les déclarations sur un même jugement collectif par le tribunal de grande instance conformément à l'article 144 du Code pénal tel que nous l'avions évoqué plus loin.
Identité culturelle. La culture congolaise, dans sa diversité et sa richesse, a un rendez-vous sur Radio Capi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30, le mardi à 14h15.
Droit
et citoyenneté. La législation congolaise face à l'inhumation de masse, Maître Edmond Bokolo Elima.
Qu'en est-il de l'inhumation des indigents ou des personnes abandonnées, des personnes retrouvées en route sans famille dans les hôpitaux, les personnes qui sont décédées dans les établissements pénitentiaires, les personnes trouvées en route, abandonnées? Qu'en est-il de leur inhumation? Ou des personnes indigentes, c'est-à-dire des personnes qui sont dépourvues des moyens? S'agissant de l'inhumation des indigents ou des morts abandonnés sans famille, dans ce cas d'espèce, c'est l'autorité administrative compétente qui, au frais de l'État, doit répondre aux différentes charges liées à l'achat du cercueil et à l'inhumation. C'est ce que nous voyons par exemple dans les établissements pénitentiaires. Lorsqu'un prisonnier ou un détenu décède, c'est la charge du directeur de la prison, l'État bien sûr, qui représente l'État, qui représente le pouvoir central de la province, qui a la charge de bien vouloir acheter un cercueil, de bien vouloir payer les frais demandés, obtenir les documents exigés que nous allons donner plus loin, et de procéder à l'inhumation. Il en est de même des personnes trouvées en route. Une personne non connue, reconnue, une personne qui n'a pas une famille, ou dans une famille où la personne décédée est indigente, ou la famille est indigente, ou la famille n'a pas de moyens. Je pense que c'est du devoir de l'autorité administrative compétente. Si nous sommes dans les territoires, c'est l'administrateur du territoire. Si nous sommes dans les secteurs, c'est l'administrateur, c'est le chef de secteur. Si nous sommes dans une ville, ça peut varier. Le gouverneur peut prendre en charge, le bourgmestre peut prendre en charge, le maire de la ville également peut prendre en charge. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont abandonnées, les personnes sans famille, les personnes même abandonnées dans des morgues, ici à Kinshasa par exemple, je pense qu'il est des bons droits, il est d'une bonne équité, il est d'une bonne moralité que les personnes qui sont abandonnées dans les morgues, qui sont retrouvées en route ou dans des circonstances que je ne saurais pas décrire ici, ces personnes puissent bénéficier bien sûr de l'intervention de l'autorité publique, l'autorité administrative, provinciale ou voire même nationale. C'est pas interdit. C'est pas interdit aux autorités nationales de s'occuper aussi, mais plus c'est l'autorité de proximité qui est soit les bourgmestres, soit le maire de la ville, soit l'administration du territoire. Donc pour les personnes abandonnées, ces personnes ou les personnes décédées sans famille ou les personnes retrouvées mortes, je pense que l'autorité qui doit être en plus concernée pour acheter les cercueils, pour payer les différents frais liés à l'inhumation et pour encadrer et faire en sorte que la personne puisse bénéficier d'un enterrement, d'une inhumation digne d'un compatriote, d'un Congolais ou d'une personne qui a vécu. Alors, étant donné qu'il y a une législation obsolète, une législation qui ne s'adapte pas dans le cas des inhumations en masse, est-ce qu'il y a une ligne de conduite à suivre dans ces pays pour enterrer les morts en masse? Moi, à mon avis, je pense que la ligne de conduite à suivre dans notre pays pour enterrer les morts en masse doit être conforme à l'esprit des textes juridiques ci-évoqués. Parce que nous sommes dans un pays de droit. Tous les actes posés par les personnes doivent être justifiés par leur légalité. Dans la mesure où on peut enterrer des gens dans un même espace, c'est-à-dire que même dans un même cimetière, sans pour autant les inhumer dans une fosse commune. C'est-à-dire qu'on peut choisir, par exemple, dans des cas exceptionnels, dans le cas de Calais, dans le cas de personnes abandonnées dans les morgues, ou les personnes trouvées en route, ou les personnes décédées dans un cas de catastrophe naturelle et consorts. Moi, je pense que l'État a le pouvoir, parce qu'on va voir plus loin, l'État a le pouvoir de choisir un cimetière ou un lieu qui peut dédier uniquement pour ces cas. Voilà, donc en fait que ces personnes soient enterrées, que ces personnes puissent bénéficier d'une inhumation digne. Mais même dans ce cas, il faut nécessairement la loi, les ordonnances que nous avions citées, c'est-à-dire que l'ordonnance de 1909 et l'ordonnance de 1914, ce sont les ordonnances qui doivent être respectées, c'est-à-dire que choisir un lieu pour les personnes qui doivent être enterrées par rapport à une circonstance bien déterminée, mais les fosses doivent être distinctes. Donc chaque personne, chaque décédé doit avoir sa fosse ou le lieu où elle sera enterrée. Donc on ne saura pas enterrer toutes les personnes dans une même fosse commune. Je pense que la loi congolaise n'a pas prévu ça, mais bon, j'ose croire qu'il faut nécessairement à l'heure actuelle une réglementation dans ce domaine qui pourra déterminer d'une manière correcte, claire et impeccable la manière d'enterrer les personnes en masse. Donc ici, je pense qu'il faut une évolution législative. Ce n'est pas interdit. Les textes juridiques peuvent déterminer dans quelles conditions les personnes peuvent être enterrées en masse ou les personnes peuvent être enterrées dans une fosse commune. Je pense que si la loi le permet, si la loi l'autorise, si les textes juridiques prévoient ça, je pense que ça ne sera pas une entorse. Alors, il faut maintenant savoir où enterre-t-on les gens. C'est-à-dire que dans un pays, dans une ville, dans un village, où est-ce que les personnes doivent être enterrées? Parce que vous avez l'habitude de voir qu'il y a des gens qui sont enterrés par-ci, par-là. Mais où? Est-ce qu'au cimetière? Est-ce que dans une concession privée? Qu'est-ce que dit les textes juridiques? Quelle est la position législative? Quelle est la position juridique du droit congolais quant à ça? L'inhumation des morts doit se faire dans des lieux choisis par les autorités. L'article 1er de l'ordonnance du 4 septembre 1909 prévoit que toutes les personnes doivent être inhumé dans un cimetière choisi ou établi par l'autorité administrative compétente. Notamment ici, c'est pour les villages. Et l'article 1er de l'ordonnance du 14 février 1914 dit que, qu'il sera établi dans tous les centres, à l'époque colonie, dans tous les centres, villes et consorts, dont les terrains désignés par l'administration des territoires, un ou plusieurs cimetières. À cet effet, aucune inhumation ne pourra être effectuée hors l'endroit ainsi déterminé, si ce n'est pour des motifs exceptionnels et moyennant l'autorisation du chef des postes compétents. Pour ainsi dire que les personnes dans une ville, dans un village, les personnes doivent être enterrées dans les lieux choisis par l'autorité compétente. C'est ce que nous appelons cimetière. Ça, c'est le principe. Mais nous allons maintenant voir plus loin. Avant de citer, nous allons voir quelle exception que la loi prévoit à ces principes, parce que les principes que les personnes doivent être enterrées dans les lieux choisis. Mais la question qu'on va se poser plus loin, on se pose la question, mais dans les églises, par exemple, on terre les gens, dans les concessions des églises, dans les concessions des écoles, dans les concessions des privés, il y a des privés qui ont des cimetières. Mais qui prévoit la loi dans ce sens-là? Parce que ici, la loi dit que, principalement, les personnes doivent être enterrées là où se trouvent les cimetières choisis par, établis et choisis par l'autorité publique. Je pense que plus loin, nous allons devoir répondre à cette question. Mais aussi, et aussi est important, il faut savoir qu'on n'enterre pas n'importe comment. Lorsqu'une personne venait de décéder, il faut prouver, il faut attester que la personne décède. Et avant de l'enterrer, il y a des documents exigés par le législateur. Le législateur exige un certain nombre de documents auxquels les personnes qui sollicitent l'inhumation, les personnes qui sollicitent l'enterrement, c'est-à-dire que les ayants de cause ou la personne qui sollicite un décédé soit enterré, je pense que dans les cas, la loi exige un certain nombre de documents légaux. Quels sont ces documents? Moi, je pense qu'ici, que pour inhumer quelqu'un, l'ordonnance du 14 février 1914, qui fait l'objet de notre analyse, bien sûr, relative au service des inhumations et police des cimetières, spécialement son article 2, prévoit... prévoit certains documents à présenter, dont notamment, avant d'inhumer, il faut avoir un permis d'inhumation délivré par l'officier de l'état civil de la localité ou à défaut par l'autorité administrative moyennant paiement des frais d'inhumation. Ça veut dire que lorsqu'une personne vient de décéder, d'ailleurs je vais poursuivre, puis essayer de commenter encore, et avant de délivrer ces documents, c'est-à-dire qu'avant d'obtenir le permis d'inhumation, le demandeur du permis doit présenter un certificat médical. Voilà. C'est-à-dire que, vous devez vous présenter avec un certificat médical lorsque la personne est décédée à l'hôpital. Mais la question qu'on peut se poser, mais quelle est alors la situation des personnes décédées à la maison, les personnes décédées en route, les personnes décédées au bateau et consorts? Dans ces cas, la même disposition, c'est-à-dire que la même disposition, l'article de l'ordonnance du 14 février 1914, prévoit que, à défaut d'un certificat médical, l'autorité administrative compétente doit se transporter sur le lieu pour s'assurer du décès. C'est-à-dire que pour enterrer quelqu'un, vous devez être muni d'un certificat médical que vous allez présenter à l'officier de l'état civil, le bourgmestre, l'administrateur du territoire, le maire de la ville, le chef de secteur, chef de chefferie. Vous présentez le certificat médical qu'il est décédé dans tel hôpital, à Mamayemo ou à la clinique kinoise. Vous présentez ces documents. C'est sur base de ces documents que l'officier de l'état civil, c'est-à-dire le bourgmestre, par exemple, dans une ville comme Kinshasa, le bourgmestre donne maintenant un permis. Un permis, ou les autres appellent ça abusivement, on peut appeler ça même une attestation d'inhumation. Et si la personne n'est pas décédée à l'hôpital, vous devez, l'autorité administrative compétente ou le bourgmestre peut se transporter sur le lieu afin de s'imprégner de la situation, afin de s'assurer que réellement le permis que je vais autoriser afin d'inhumer, l'autorisation que je vais donner à cette famille, réellement la personne est décédée. Voilà les documents qu'il faut réunir. Le document qu'il faut réunir. Et l'inhumation n'est pas gratuite. Lorsque vous allez inhumer dans une concession privée, telle que nous allons l'expliquer plus loin, vous devez payer les frais. Lorsque vous allez inhumer aussi dans les services, dans les cimetières de l'État, soit auprès du bourgmestre qui demande le permis, qui délivre le permis, soit au niveau de chaque cimetière, il y a toujours des chefs de poste, ça veut dire des personnes qui sont des fonctionnaires de l'État, qui sont chargés de garder les cimetières, comme les gardiens des cimetières. Voilà les documents que vous devez présenter à chaque fois qu'il est requis pour pouvoir enterrer dignement une personne. Mais aussi, il sera loisible de répondre à la question de savoir quel soubassement juridique ou légal de l'enterrement des religieux dans les cathédrales, concessions, couvents, congrégations, voire même dans leur parcelle. Parce que nous avons dit que les personnes doivent être enterrées dans les cimetières créés et établis par l'État. Mais la question qu'on se pose, on voit les gens avoir leur cimetière. Comme à Kinshasa, vous avez une nécropole. On voit des gens, les évêques, être enterrés dans les cathédrales. On voit les missionnaires protestants être enterrés dans les concessions ecclésiastiques. Mais cette question, est-ce que c'est autorisé par la loi? Il faut constater qu'il existe certaines inhumations qui se font dans les concessions privées, parcelles familiales, les cathédrales, couvents ou congrégations. Alors que les dispositions légales analysées exigent que l'enterrement est lié que dans les cimetières établis par l'autorité administrative. À ces constats, il faut répondre ce qui suit, comme suit. L'article 1er de l'ordonnance du 4 septembre 1909 relative au cimetière dans le village indigène prévoit que aucune inhumation ne pourra être effectuée hors l'endroit ainsi déterminé, si ce n'est pour les motifs exceptionnels et moyennant l'autorisation expresse du chef de poste compétent. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'exception y établie et l'autorisation. Donc le principe est que vous décédez, on doit vous enterrer dans un cimetière établi par l'État congolais. Mais exceptionnellement, on peut vous enterrer en dehors des cimetières choisis par l'État, notamment dans les cathédrales, dans les concessions privées, où une famille peut avoir une concession où on enterre les gens. Renchérir l'article 9 de l'ordonnance du 14 février 1914 relative au service des inhumations et police des cimetières. Les corps seront inhumés à l'endroit désigné par l'autorité administrative de la localité, tel que nous venons de le dire. Toutefois, voilà l'exception. Attention, en droit, il faut toujours faire attention aux exceptions. Parce qu'on a toujours dit que l'exception emporte sur le principe. Toutefois, le gouverneur pourra accorder dans les lieux consacrés aux sépultures, aux conditions fixées par l'arrêté du 16, l'arrêté royal. Du 16 mai 1907, des concessions de terrain aux personnes qui désireraient y posséder une place distincte pour y fonder leur sépulture et celle de leur famille. Pareilles concessions pourront être accordées aux associations religieuses et autres possédant la personnalité civile pour la sépulture de leurs membres et agents. Pour vous dire que l'article 9 de l'ordonnance que je venais de lire ici, cet article vient poser l'exception. Principalement, on doit enterrer là où l'État a choisi. Mais exceptionnellement, l'État peut accorder des concessions, l'État peut donner l'autorisation, l'État peut donner des forêts, l'État peut donner des terrains à des personnes privées, physiques ou morales, afin de constituer leur lieu de sépulture. On appelle ça les concessions. Et l'article unique de l'ordonnance numéro 11-104 du 15 mars 1950 relatif au service des inhumations et police des cimetières prévoit que les administrateurs des territoires sont délégués pour accorder concurremment avec le gouverneur des provinces et dans les conditions prévues à l'arrêté royal du 16 mai 1907 les concessions de sépulture. Ainsi donc, au terme de l'article 1er de l'arrêté du gouverneur général du 16 mai 1907 relatif aux concessions de sépulture, Les concessions accordées par le gouverneur général pour les sépultures sont perpétuelles ou temporelles. Les concessions temporelles sont de 15 ans. Ces dernières sont exclusivement individuelles. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme nous examinons la matière foncière. C'est comme la matière foncière, comme on dit que l'État ne vend pas les terres. Parce que les cimetières ou les concessions sépulturelles sont conçues dans des terres, dans des forêts. Alors que l'État, comme on dit, l'État exerce une souveraineté absolue sur les sols et sous-sols. Et l'État ne vend jamais la terre ou les terrains. L'État concède, même là, partout où vous construisez, c'est une concession. L'État vous concède. Et vous avez les concessions ordinaires et les concessions perpétuelles. Les concessions ordinaires, ce sont les concessions que l'État vous donne intérêt pour exploiter, pour construire, mais pour un temps. Notamment, par exemple, les terrains qu'on donne aux personnes morales. Vous avez un délai de 15, les personnes morales ou les expatriés, donc les concessions ordinaires de 25 ans et consorts. Et vous avez les concessions perpétuelles. En matière foncière, les concessions perpétuelles sont données aux personnes physiques du droit congolais. Donc les Congolais, 100% Congolais, vous êtes Congolais des pères ou des mères ou père-mère, on vous donne un intérêt, c'est pour jouir d'une manière indéfinie. C'est la même chose avec les cimetières. L'État, l'administration du territoire ou le gouverneur peut signer un arrêté ou une décision qui vous accorde une concession pour ériger votre sépulture, vous et de votre famille, soit d'une manière ordinaire, c'est-à-dire que pour un délai de 15 ans, soit d'une manière perpétuelle. L'article 2 de cette ordonnance prévoit que les concessions perpétuelles donnent lieu au paiement de la somme de 2500 par mètre carré, les concessions temporaires donnent lieu à un paiement d'une somme de 1500, etc. Pour ainsi dire que l'État peut autoriser les personnes morales ou physiques privées, bien sûr, en fait d'avoir des concessions de sépulture. C'est d'une manière générale, c'est-à-dire que les églises, les personnes privées peuvent avoir leur cimetière, où ils ont signé les contrats avec l'État pour avoir des terrains organisés, c'est autorisé, le cas des nécropoles, à Kinshasa et partout ailleurs, à Kisangani, à Mbandaka, à l'Équateur, il y a toujours des personnes privées qui détiennent leur cimetière. Ça veut dire qu'ils ont signé des contrats de concession, soit ordinaires, soit privés avec l'État. Mais ici, une particularité, je voudrais plus marteler sur ce phénomène qui consiste pour l'Église catholique de pouvoir enterrer, par exemple, les fidèles ou les ecclésiastiques, notamment les évêques, au sein des églises. Je pense pour l'Église catholique, l'article 3 de l'accord cadre signé entre le Saint-Siège et la RDC en date du 20 mai 2016, revu bien sûr, révisé en date du 2 juillet 2022 récemment, prévoit que la RDC reconnaît aussi la personnalité juridique de toutes les institutions de l'Église catholique, qui sont reconnues comme telles par les droits canoniques, et qui restent régis par leurs règles propres. Et l'article 4 du même accord cadre dit que il appartient exclusivement à l'autorité ecclésiastique de fixer librement les normes canoniques dans les domaines de sa compétence. En conformité à l'article 9 de l'ordonnance du 4 février 1914 relatif aux services des inhumations et polices des cimetières, qui dit que les concessions pourraient être accordées aux associations religieuses et autres possédant la personnalité juridique ou civile, la sépulture de leurs membres, c'est pour la sépulture de leurs membres et agents. Et selon l'esprit de l'accord cadre signé entre l'Église catholique et la RDC, c'est le code canonique qui doit prévoir les règles relatives aux funérailles ecclésiastiques, notamment pour les évêques. En effet, le code canonique de 1983, spécialement en son canon 1979, canon, ce sont les articles. Article 1779 dit que les funérailles de l'évêque diocésain seront célébrées dans sa propre église cathédrale, à moins que lui-même n'ait choisi une église, une autre église. Et là, intervient l'inhumation. Voilà la gymnastique. Ça veut dire que pour l'église catholique, ce n'est pas une illégalité. C'est-à-dire que les accords que la RDC a signés, ou les pays signent avec les Saint-Sièges, donnent la primauté pour certaines choses internes à l'Église, donnent la primauté au droit canonique, c'est-à-dire le code canonique qui régit l'Église catholique. Et le code canonique dit que les funérailles, les obsèques d'un évêque doivent se dérouler dans son église cathédrale, à moins que lui-même, avant son décès, puisse disposer autrement. Mais au cas où il ne dispose pas, on doit célébrer ses funérailles dans l'église et on doit l'enterrer à l'église, conformément à la loi. Donc la loi l'autorise, il n'y a rien d'illégalité. Bref, les personnes privées, les églises peuvent avoir des concessions sépultures, conformément à l'autorisation des autorités administratives compétentes. Pour conclure notre propos, il est loisible de dire que la législation en cette matière, c'est-à-dire en matière d'inhumation ou enterrement, est à ce jour obsolète, out of date, expirée, ça ne s'adapte plus. C'est la branche orpheline du droit congolais, comme l'avait affirmé, comme l'avait reconnu d'ailleurs à son temps le professeur Évariste Bochab, qui fut à l'époque ancien vice-premier ministre chargé de l'intérieur. Nous appelons alors, c'est une interpellation, nous appelons alors le député à se pencher sur cette question, car les textes hérités du pouvoir colonial belge ne s'adaptent plus aux réalités évolutives actuelles comme je venais de développer. Donc il est nécessaire aux députés, parce que nous devons conserver la mémoire des personnes décédées. Nous devons organiser ce secteur. Nous devons respecter les cimetières. Les personnes doivent être enterrées dignement dans des endroits appropriés. Il est question pour le législateur congolais de revoir cette législation devenue obsolète. Il est question pour le législateur de pouvoir réglementer la question sur l'enterrement en masse ou les fosses communes. Et je pense que c'est l'un des faits de la société qui nécessite un regard très croisé, un regard très important de nos parlementaires, tant au niveau national qu'au niveau provincial.
La législation congolaise face à l'inhumation de masse, c'est dans « Droit et citoyenneté ». Après Maître Edmond Bokolo, un pasteur s'interroge sur l'inhumation dans les cathédrales catholiques. Pourquoi l'État autorise cela contrairement à d'autres églises du pays?
C'est la question du pasteur Michel Mobonga Lobo de l'église El Shaddai Mbandaka et Kinshasa. Il intervient sur la laïcité de la RDC.
J'interviens aujourd'hui à cette émission de la Radio Capi pour exprimer ma préoccupation sur ce que nous voyons au sujet des funérailles de l'Église catholique. Nous sommes tous, nous le savons tous, que cette Église est une Église comme toutes les autres Églises, dotée de la personnalité juridique dans ce pays. Elle bénéficie de droits d'enterrer ses cardinaux, ses évêques dans leurs concessions. Et nous savons aussi que l'État congolais, qui est un État laïque, son article premier de la Constitution en vigueur, qui dit que cet État, la République démocratique du Congo, est dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social-démocratique et laïque. Cet État est laïque. La RDC est un État laïque. Mais la législation congolaise, face à l'inhumation ou enterrement en masse, et met des réserves sur l'inhumation des personnes dans les églises ou les concessions privées. Je me pose la question. Lorsqu'il s'agit d'enterrer leurs pasteurs dans les ancêtres de leur paroisse, les autres églises, bien que dotées de la personnalité morale, nous voyons qu'elles ne peuvent pas se prévaloir de ces droits. Ça veut dire d'enterrer leurs morts dans leurs concessions. Alors que leurs statuts sont reconnus par les services de l'administration congolaise. Pour moi, quant à moi, je comprends que ce comportement viole le premier article de notre Constitution. Par ailleurs, l'Église catholique étant une personne morale, c'est-à-dire un sujet de droit, elle est aussi comme toute autre personne physique, qui est aussi sujet de droit, qui voudra enterrer ses morts dans une dignité, dans une concession privée, prévue comme un mausolée de la famille, pour enterrer un membre de la famille ou une personnalité remarquable qui a marqué la famille. Malheureusement, nous voyons que la législation congolaise émet encore des restrictions contre les personnes privées qui veulent se prévaloir de ces droits. On se poserait la question, mais pourquoi deux poids et deux mesures? Alors, je déplore cet état des choses et demande au législateur congolais de revisiter la loi en la matière. Ainsi, nous continuerons à accepter que ce pays est laïque et qu'il n'y a pas de poids et de mesure. Voilà. Merci pour la Radio Capi, la radio de la paix.
Nous recevons à présent le haut magistrat émérite Nicolas Kedeshiba, son entretien avec Jeff Ngoy.
En ce qui concerne l'inhumation des masses, comment doit-on procéder?
Je dois d'abord apporter une précision. Il n'y a pas de condition idéale pour enterrer les gens. C'est vrai que la loi chez nous n'a pas prévu l'inhumation de masse. Mais il y a des cas de nécessité, des cas qui s'imposent à cause de la sécurité, qui font qu'on soit obligé d'enterrer, de procéder à l'enterrement des gens en masse. Parce que l'unique texte de loi que nous avons, c'est l'ordonnance du 14 février 1914. Sur ce point, je m'en prends aussi à nos députés qui passent du temps à se disputer, à dévier sur le plan politique, au lieu de défendre les intérêts de la population qui sont censés représenter. Quand vous allez dans l'hémicycle, vous trouvez que c'est beaucoup plus la défense des familles politiques que la défense des intérêts des électeurs. C'est le travail que les députés devaient faire. On devait proposer des lois. Au lieu qu'on passe du temps à se disputer, on devait penser à ça. Et sur le plan légal, on a prévu des sépulcres de 1m80. Et même 1m80, c'est déjà dépassé. Parce qu'aujourd'hui, on voit des hommes qui mesurent même plus de 2 mètres. 1m80 de longueur et 80 cm de largeur et 1m50 de profondeur. Et le corps humain doit être respecté. Parce que dans notre coutume, nous les bantous, et ça se fait partout. Nous faisons ce qu'on appelle le respect aux morts. Le respect aux morts Ça veut dire que quand quelqu'un est mort, on fait tout pour quoi ? Bien conserver le corps, le nettoyer, l'habiller, le mettre dans un cercueil, le mettre dans une tombe. Et entre les tombes, il doit y avoir une distance de 30 cm. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous trouvez même des gens qu'on enterre sur les autres. Là, nous faisons croire que ceux qui nous suivent vont prendre des dispositions pour veiller à ce qu'on puisse éviter d'enterrer le mort sur les autres. Mais maintenant, il y a des cas, par exemple, quand il y a la guerre, dans des zones des opérations, quand il y a des catastrophes naturelles, quand il y a des accidents, avec beaucoup de morts, le gouverneur de province est habilité à prendre une disposition spéciale pour permettre qu'on enterre les gens, non pas dans des conditions inhumaines, dégradantes, mais en faisant des sacs cercueils.
Alors, on appelle ça sac cercueil.
Oui. Parce que vous savez que quand vous vous trouvez dans un cas comme celui de Calais, où le lac a refoulé les eaux des rivières, et ces eaux ont provoqué une inondation terrible. Je suis même le cas d'un papa qui a perdu ses 4 enfants. Il portait 2 à la main, 1 au dos et 4e sur les épaules. Tous ses enfants sont partis. Et dans ce cas comme celui-là, les eaux avaient englouti l'espace nécessaire et il y a eu beaucoup de morts. Et vous n'êtes pas sans ignorer que les corps dans l'eau, ou du moins l'eau, accélère les processus de décomposition du corps. Alors, dans un cas comme Calais, on s'est retrouvé avec un espace réduit, avec plus de 500 corps dans un état de décomposition avancé. En principe, on devait chercher à conserver les corps. Mais où est-ce qu'on allait conserver ces corps? Et les corps, dans un tel état, ils deviennent aussi un danger pour les humains. Alors, il fallait parer au plus pressé et les prendre, les mettre dans des sacs cercueils et les mettre dans la fosse commune pour éviter.
Tout cela vient de quoi ? Ce n'est
non,
pas réglementé.
C'est prévu. Parce que, par exemple, dans des cas d'accidents, dans des cas de catastrophes naturelles, à la guerre, lors des hostilités, vous n'aurez pas le temps d'aller chercher des cercueils et de faire des sépulcres pour chaque mort. Et je vous ai dit que l'autorité est tenue, compte tenu de la nécessité, de l'urgence et de la sécurité, l'autorité est tenue de prendre des dispositions pour éviter que le corps s'abîme et reste dans un état de décomposition avancé et à la portée de tout le monde. Parce que en ce moment-là, on ne pourra pas bien conserver le corps. Et ensuite, ce corps dans cet état, il devient aussi un danger pour la population qui reste. Voilà pourquoi on part au plus pressé. À Calais, il n'y avait pas d'espace. Et même s'il fallait conserver le corps, on allait les conserver où et comment on allait faire pour les identifier.
Bon, après une longue période d'attente, on ne voit aucun membre de famille venir réclamer le corps à la morgue. On dit que ce sont des indigents. On les enterre sans respect des normes.
Non, il y a les normes. Parce que quand il y a des indigents, je ne crois pas qu'on les enterre dans des fosses communes. Il y a un espace prévu pour enterrer les corps qui se sont retrouvés à la morgue après plusieurs mois sans que les membres de famille les réclament. Alors, ça dépend de ce que les gens entendent. Parce qu'aujourd'hui, par cercueil, par condition, parce qu'aujourd'hui, dans le but de saboter l'autorité, les Congolais aiment dire n'importe quoi. Il y a un service au ministère des Affaires sociales qui est habilité, qui ne s'occupe que des cas comme celui-là. Il y a un mort, ou même un fou qui est mort, et qui n'est pas reconnu, ou dont le corps n'est pas réclamé par les membres de sa famille. Ce mort-là, on ne va pas le laisser au bord de la route. On doit l'amener à la mort, ou on doit chercher à conserver le corps. Et après, un délai bien déterminé, de 2-3 mois, on décide.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi.
la législation congolaise face à l'inhumation des masses. Nous en parlons avec Nicolas Kedishiba. Où doit-on enterrer ? Au cimetière ou bien dans une concession privée ou bien dans une cathédrale ?
Non, écoutez, je comprends ce que vous voulez dire. Je vous dis que pour les cas dont je suis certain, au cimetière de Kinkole, et je crois que ça peut être le cas pour les autres cimetières, on a prévu un terrain pour enterrer les gens pour la vie de l'État. C'est là où ils sont enterrés. Alors, ce que vous dites pour les cathédrales dans des concessions privées, il faut qu'il y ait une autorisation spéciale. Parce que je vais vous donner le cas de Papa Étienne Tshisekedi Omulumba. Quand il est mort, les gens avaient réclamé qu'il soit enterré. Il mettait tout ça. Mais l'autorité avait refusé. On avait donné un endroit où on devait l'enterrer avec dignité, honneur, parce que nul n'ignore ce qu'il a fait dans ce pays et pour ce pays. Il faut qu'il y ait une autorisation spéciale pour enterrer dans une résidence. Et quand on enterre dans une résidence, il ne faut pas que ça soit à la portée de tout le monde. Même à l'église, quand on enterre, il y a l'autorisation accordée à l'église pour enterrer ses dignitaires, pour ceux qui sont enterrés dans l'enceinte de l'église, dans la cathédrale ou ailleurs, mais dans l'enceinte de l'église. Et c'est ainsi que le pape qui meurt, on ne l'enterre pas n'importe où. Le cardinal qui meurt, on ne l'enterre pas n'importe où. Mais pour les autres, ils ont un cimetière sur un terrain qui leur a été accordé préalablement par l'État. Et c'est là où ils enterrent. Donc, pour que l'État accorde, ça veut dire qu'il y a l'autorisation de la loi. Et l'autorité est au courant. Tout le monde sait qu'il y a un cimetière. Parfois, c'est même dans un grand cimetière, on leur donne une concession, une partie du terrain pour qu'ils enterrent les leurs. Donc, ça ne se fait pas au hasard. Et ça se fait légalement et dignement.
Nous allons conclure ce magazine sur la législation congolaise face à l'inhumation de masse avec Nicolas Kedishiba.
Maintenant, comment remédier à cette carence législative en la matière ? Il y a une carence.
Bon, il y a une carence, c'est vrai, parce que...
Vous êtes aussi appelé à faire des propositions, proposer un texte à un député qui l'endosse.
J'ai posé un texte que je peux remettre à un député. Il faut du temps. Moi, je reproche à nos honorables députés de passer du temps dans des futilités au lieu de penser aux intérêts des électeurs. C'est pas normal qu'un député passe son temps à parler, à débuter parfois de mensonges sur le plan politique, à manifester sur le plan de manifestations, de marches, alors qu'il a beaucoup de choses à faire pour défendre l'intérêt des gens qui ont voté pour lui, pour défendre l'intérêt de sa circonscription électorale. Et ils sont payés pour ça. Pourquoi ils pensent pas à tout ça? Normalement, c'est eux qui doivent faire des propositions de loi, qui doivent les étudier, les analyser et arriver à les faire adopter et voter. C'est pas normal qu'un gouverneur soit obligé de prendre des circulaires, des instructions en cas de besoin. Et il faut nécessairement qu'on prévoit, comme c'est prévu ailleurs, quand il y a la guerre, quand il y a des accidents qui ont provoqué beaucoup de morts et qu'on ne sait pas évacuer les corps, parce qu'il y a la nécessité en ce moment-là, quand on ne sait pas évacuer les corps, quand les corps se sont décomposés et qu'on ne sait pas les conserver, il faut qu'il y ait une loi qui prévoit des cas comme ça. Quand il y a des catastrophes naturelles qui provoquent beaucoup de morts, qui provoquent des éboulements et vous n'avez pas assez d'espace, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que ça soit prévu par la loi. Il ne faut pas qu'on dise, ici ce que nous disons, c'est le lege ferenda, mais nous voulons que ça soit érigé en loi. Pourquoi les législateurs de l'époque coloniale a prévu l'inhumation dans des conditions normales, mais maintenant dans des conditions exceptionnelles? Qu'est-ce que nous empêche de prendre des lois comme ça? Qu'est-ce qui nous empêche d'éviter des cas comme celui de Papa Étienne Tshisekedi Omulumba? Il est mort, on commence à se battre pour savoir où il sera enterré. Ce sont des choses qu'on doit éviter en prévoyant ce qu'on doit faire au moment opportun.
Ainsi s'achève Droit et Citoyenneté d'aujourd'hui sur la loi face à l'inhumation des masses. Merci de votre écoute et bonne suite de nos programmes.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.